J'aimerais qu'on puisse voir la place du travail et nous inviter à mettre le travail à sa juste place. Quelle place accorder au travail? La Bible nous conduit déjà à écarter plusieurs fausses pistes que on a pu citer. Le travail comme étant inutile. On retrouve par exemple l'apôtre Paul qui déclare aux chrétiens de Thessalonique ceci. Nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et ils se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Certains dans l'église avaient laissé de côté le travail. Toutes ces choses matérielles-là, peut-être pour eux, n'avaient plus d'importance. Seul comptait le spirituel et puis il y avait un contexte d'attente d'un retour imminent du Seigneur. Le Seigneur Jésus n'était plus là, mais dans les premiers temps de l'Église, on s'attendait à ce qu'il revienne très vite. Et donc certains avaient du coup laissé tomber complètement leur activité professionnelle parce que Jésus allait revenir. Et Paul ne va pas dans ce sens-là. Non, non. Travailler de vos propres mains. Donc le travail n'est pas inutile, illusoire. Le travail n'est pas mauvais en soi. On l'a vu lors de la première session, ce n'est pas une malédiction, une chose qu'il faudrait subir simplement pour vivre et à fuir dès que possible pour se livrer à quelque chose de plus essentiel. Dans la Bible, ce qu'on a vu, ce n'est pas le travail qui est punition divine lorsque l'homme s'est révolté contre Dieu, mais c'est la pénibilité du travail qui vient comme une sanction de Dieu. Donc le travail n'est ni inutile ni mauvais en soi. Et ce qu'on va aussi aborder, c'est que le travail, d'après la Bible, n'est pas une finalité absolue. Le travail n'est pas, ne doit pas être une idole. Dans les 10 commandements que Dieu donne via Moïse, Dieu déclare premièrement, et je vous propose de prendre ce texte ensemble dans Exode chapitre 20, page 85 dans la première partie de la Bible. Lorsqu'on parle d'idole, on va naturellement se référer à ce texte-là, Exode chapitre 20, page 85, et nous lisons à partir du verset 3. Dieu commence dans ces 10 paroles qu'il donne à son peuple par « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre. » Ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. J'arrête ici ma lecture. Dans notre société occidentale, le terme d'idole prête peut-être à sourire, parce qu'on n'a pas idée de se prosterner peut-être devant une statuette en métal ou en bois. Donc, on a l'impression que ça ne nous concerne pas trop. Mais à bien y regarder, nous pouvons avoir tout un tas d'idoles modernes. Certes, pas dans le même format, c'est pas la petite statuette en bois ou en métal, mais dans le fond, c'est la même chose. Et une de ces idoles modernes, c'est le travail. Alors, qu'est-ce qu'une idole? Puisque du coup, on comprend que c'est plus aujourd'hui ce type de statuette, mais la logique est la même. Qu'est-ce qu'une idole? C'est ce autour de quoi ma vie tourne et qui n'est pas Dieu. C'est ce qui fait mon identité. C'est là où je trouve mon identité. C'est ce qui captive mes pensées. C'est ce à quoi je rêve. C'est ce qui occupe la plus grande partie de mon temps. C'est ce qui fait ma fierté devant les autres. Ce qui fait que je me sens quelqu'un. Ce qui me donne peut-être un sentiment de sécurité, etc., etc. Autrement dit, une idole, c'est ce que j'adore en lieu et place de Dieu. D'après la Bible, tout être humain est fait pour adorer Dieu. Mais s'il n'adore pas Dieu, il adorera autre chose. Il est conçu pour être un adorateur. Et il va toujours se tourner vers quelque chose de plus grand. Il a toujours cette soif d'absolu. Quelque chose dans lequel il va mettre son espérance, son cœur. Alors, nos idoles modernes, quelles sont-elles? Pourquoi vivons-nous? On pourrait citer le pouvoir, peut-être, l'argent, le travail, le sexe, la gloire, etc., etc. Mais rien ni personne ne peut supporter le poids de la divinité. Rien ni personne ne peut jouer le rôle de Dieu. Alors revenons au travail, une de ces idoles modernes. Si le travail devient notre idole, nous ne serons jamais satisfaits. Pourquoi? Parce qu'il en faudra toujours plus. Vous avez tel poste, admettons, mais vous allez convoiter telle promotion. Vous avez eu la promotion, vous allez chercher à rebondir chez un concurrent pour un poste plus prestigieux, ou alors vous reconvertir dans une carrière qui vous convient mieux, etc., etc. La quête est sans fin, on est toujours dans l'attente d'un toujours plus. Comment le travail peut prendre une place démesurée, une place d'idole? Il faut toujours se poser la question des motivations. Qu'est-ce que j'y cherche? Pourquoi quelqu'un va se donner corps et âme sur son boulot? Quelle est la motivation? Est-ce la renommée? Et pourtant, les exploits en tout genre, que ce soit dans le domaine professionnel, sportif, artistique, sont tellement éphémères. Tellement éphémères. Prenez la Coupe du Monde 2018, remportée par la France. Au bout de quelques jours, de quelques semaines, on n'y pense déjà plus. Peut-être les joueurs ont eu leur demi-journée de gloire en paradant sur les Champs-Élysées, en se faisant recevoir à l'Élysée par le président de la République. Mais au bout de très peu de temps, l'émulation, la joie, tout ça est déjà retombé. Pensez aux vainqueurs de la Coupe du Monde 1998. Il y a fort à parier que plusieurs, aujourd'hui, sont presque anonymes. Peut-être certains se sont ruinés, d'autres ont terminé à vendre des piscines ou du dentifrice, je sais pas. Tout ça est tellement passager. Donc, est-ce que c'est la renommée qui nous pousse à mettre le paquet dans la démesure dans notre boulot? Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel sujet, on vous oubliera. Qui va se souvenir de Kylian Mbappé dans 200 ou 300 ans? Et pourtant, on est ébahi devant ce qu'il fait aujourd'hui. Est-ce la renommée qui est notre motivation intérieure? Est-ce l'orgueil? C'est intéressant que beaucoup de personnes se démènent, pas parce qu'elles veulent devenir Steve Jobs, forcément, mais parce que elle cherche une situation supérieure à celle de son voisin de palier ou à celle de son beau-frère. Voilà. On veut avoir quelque chose qui fait qu'on se sent au-dessus. Il y a l'auteur de l'Ecclésiaste qui dit « Les gens se fatiguent et veulent réussir dans leurs activités uniquement pour dépasser les autres. Cela non plus ne sert à rien, autant courir après le vent. » Ecclésiaste 4, verset 4. Je lis dans la traduction Parole de vie, c'est pour ça que je l'ai pas ouvert ensemble. Est-ce que c'est l'orgueil qui est le moteur intérieur? Est-ce la richesse? Ou alors le confort, c'est une autre manière de le dire. Ou même la sécurité. On se donne à fond dans le travail parce que on pense qu'on va y trouver les moyens et une sécurité pour nos vies. Et là, tout le monde est concerné, en fait. Parce que même avec peu, on peut tomber dans ce piège-là de penser que là est notre sécurité. Je pense à ces personnes en Ukraine, quand la situation a commencé à tourner au vinaigre, tout le monde va à la banque récupérer son argent, et puis ça va être saturé en moins de deux. Parce que c'est notre sécurité qui est là. Mais du jour au lendemain, ça se trouve, notre compte bancaire, tac, le système bancaire, il saute, ou notre banque, elle fait faillite, et on n'a plus rien. Jésus a dit, attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. Alors Jésus leur raconta une histoire. Un homme riche a des terres qui produisent une bonne récolte. Il se demande, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. Alors il se dit, voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? Jésus ajoute, voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Il développe encore, et un peu plus loin, il dit, ne soyez pas inquiets. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de ces choses. Et Dieu, votre Père, le sait bien. Cherchez plutôt son royaume, et il vous donnera tout le reste en plus. Luc chapitre 12. Ces textes-là, les paroles de Jésus nous rappellent que notre vie peut nous être enlevée cette nuit. Alors, c'est pas une raison pour arrêter de former des projets. Bien sûr que non. Mais c'est une raison de ne pas tout miser sur nos projets, sur nos accomplissements. Et notamment pour satisfaire notre ego. Vous voyez dans l'histoire racontée par Jésus, cet homme qui dit, c'est bien, repose-toi, tu as accumulé, etc. Donc, beaucoup d'orgueil et de satisfaction personnelle. C'est une raison donc de pas dépenser toute notre énergie pour accumuler ici-bas. On raconte au sujet de Rockefeller, cet industriel américain qui est mort en 1937. C'était l'un des hommes les plus riches de tous les temps. Certains ont calculé quelle pourrait être sa fortune si on l'a réestimée dans les standards aujourd'hui. Et on l'a estimé à plus de 300 milliards de dollars. Donc il serait vraiment le plus riche d'une manière incontestée. Et on raconte qu'après son décès, quelqu'un a demandé à son comptable « Combien a-t-il laissé ?» Et le comptable a répondu « Tout. Il a tout laissé. » Eh ouais, quand on est mort, on laisse tout. Alors ne perdons pas notre énergie pour tout ce qui peut s'envoler. À nouveau, c'est un livre de sagesse qui le dit d'une autre manière. « Ne te fatigue pas pour posséder la richesse. Arrête d'y penser. » Tu jettes sur elle un coup d'œil et la voilà déjà partie. Elle sait prendre des ailes comme l'aigle qui s'envole. Alors jusqu'ici, on a abordé différentes mauvaises motivations qui peuvent conduire à idolâtrer le travail, c'est-à-dire à lui conférer une place qui lui est indue, à l'absolutiser. Et la réponse biblique, notamment, c'est pour ceux qui appartiennent à Jésus que notre identité se trouve en lui. Notre identité est en lui. En lui se trouve notre salut. En lui se trouve notre appui, notre sécurité, notre espérance. Tout se trouve en lui. On n'a pas besoin de chercher ailleurs ce que nous avons déjà en Jésus. Alors, ne nous méprenons pas. L'idée, c'est pas de condamner tout l'intérêt qu'on peut donner dans son travail. Au contraire. Ni de dire qu'il est mauvais d'avoir une ambition professionnelle, ni d'être passionné par son boulot, c'est même mieux, c'est même beaucoup mieux. Mais c'est toujours une mise en garde par rapport à la juste place que doit prendre le travail. Et j'aimerais m'arrêter sur une question qui m'a été posée, vous savez, sur ces morceaux de papier, j'ai proposé à chacun d'inscrire une question qu'il pouvait avoir au sujet du travail, et une était la suivante. Et ça touche à ce qu'on dit aujourd'hui, de savoir dans quelle mesure on peut chercher à développer un business. Dans quelle mesure on peut aspirer à réussir dans les affaires. Voilà, c'est une manière de parler plus sur un domaine de chef d'entreprise, mais ça pourrait être sur le boulot en général. Pourquoi pas? Pourquoi pas chercher à développer un business? Je pense que c'est une question aussi d'appel. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à vivre, en fait? Je crois qu'il y a des personnes à qui Dieu donne des capacités spéciales et des capacités, des facilités pour développer des projets d'entreprise, des personnes qui sont créatives, qui vont lancer des choses nouvelles. Et on peut le vivre en tant que chrétien. On peut le vivre d'une manière chrétienne. Pour servir Dieu, pour servir les autres. Le pasteur avec qui j'ai fait mon stage il y a quelques années avait fait une visite aux États-Unis. Il avait rencontré un chef d'entreprise là-bas qui travaillait dans le domaine des chariots élévateurs. Il avait plutôt bien réussi et son identité de chrétienne le conduisait à gérer son entreprise avec des valeurs chrétiennes et avec des décisions par lesquels il voulait honorer Dieu. Par exemple, chaque année, une partie de son résultat net, il l'a dédié pour Dieu. Il l'a consacré pour des organisations chrétiennes, des œuvres missionnaires, etc., etc. Et le Seigneur était vraiment en bénédiction pour son entreprise qui était florissante. Donc, son identité chrétienne avait un impact sur la manière dont il vivait la gestion de son business. Donc, on peut le vivre chrétiennement, bien sûr. Je crois qu'une autre facette qui est importante, c'est de vivre en étant fidèle à Dieu dans les différents domaines de sa vie. Dans le domaine de notre famille, si on en a une, c'est le Nouveau Testament qui nous rappelle l'importance de prendre soin, premièrement, de ses proches. Donc ça, c'est un des curseurs sur lesquels ça va être difficile. Lorsqu'on est chef d'entreprise, on est souvent très impliqué par son temps, son énergie, son attention, etc. Mais est-ce qu'on est fidèle pour prendre soin de sa famille? Est-ce qu'on est fidèle dans notre vie d'église aussi, en tant que chrétien, je parle? Alors bien sûr, il y aura toujours des tensions dans la vie avec lesquelles il faut composer, des réajustements sans cesse nécessaires. Je sais pas, rien que les dernières semaines avec le Covid ou autre, plusieurs fois on a été interrompu parce qu'on avait un enfant à la maison, etc. On doit toujours réajuster les choses en fonction de la situation présente. Et puis il y a des périodes de vie plus compliquées que d'autres. Et c'est là où on a besoin de demander au Seigneur la sagesse de comment vivre dans le temps présent, d'avoir aussi des personnes qui sont plus matures dans la foi, qui peuvent nous conseiller, peut-être si on est dans un domaine professionnel, d'avoir aussi des pairs, des gens qui sont dans le même domaine que nous et qui vont, avec qui on va pouvoir échanger et prier pour savoir comment eux, ils vivent en tant que chrétiens dans ce domaine-là. Ça, je pense que c'est très utile, quel que soit notre domaine d'activité. Je pense que c'est important, avec ce que je viens de dire, de prendre des décisions aussi importantes en concertation avec sa famille. Et il faut bien prendre le temps là-dessus, parce que des fois, on prend pas garde aux implications que ça peut avoir sur sa famille de faire tel ou tel choix. Et après, ça peut être l'un ou l'autre qui va reprocher le choix qui a été fait. Donc c'est bien de faire ses choix en étant raccord. Puis d'orienter ses choix en tenant compte de ses propres engagements d'église, c'est important. Là, quand on était en vacances en Bretagne, il y a mon beau-père qui me dit « Mais quand est-ce que vous venez vous installer en Bretagne ?» Enfin, ça faisait quelques années qu'il m'avait plus trop lancé sur le sujet. Et outre le fait que, voilà, la différence entre être citadin et être plus rural, etc. Je dis « Mais au fond, moi, l'endroit où je vais être, ça va être conditionné par là où je sers Dieu. » Donc c'est inhérent à mes choix. Voilà. Une dernière remarque avec un verset tiré à nouveau de Luc 12, par rapport au fait d'avoir une entreprise florissante, de développer quelque chose qui peut prendre de l'ampleur. Jésus met en garde en disant « Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. » Et on peut considérer que Dieu nous confie bien des choses. Peut-être qu'on n'est pas dirigeant d'entreprise, mais Dieu nous a donné beaucoup de choses et on peut pas le minimiser. Si on est ici, on vit en France avec un toit, un travail, etc. On fait partie des gens les plus riches de la planète. C'est un fait. Donc, gérons bien ce que le Seigneur nous a donné. Et si le Seigneur nous donne beaucoup, c'est aussi une grande responsabilité. Et Dieu nous demandera compte de ce qu'il nous a donné. Je termine sur par rapport à cette question en annonçant aussi que dans les temps à venir, au mois de mai, normalement, on aura ici parmi nous Claude Grandjean, que j'ai invité. C'est quelqu'un qui, pendant plus de 30 ans, a été dirigeant d'entreprise, leader dans le domaine technologique. Et il a aussi, en parallèle, exercé des responsabilités dans le monde chrétien, dans l'église, mais aussi dans différentes organisations. Et il viendra nous parler aussi de la gestion des déséquilibres. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. On doit gérer des déséquilibres. Les choses ne sont pas forcément équilibrées et c'est pas forcément ça qu'on doit vivre. Mais il a beaucoup à dire là-dessus aussi et il viendra avec sa femme aussi qui pourra en parler parce qu'il a eu aussi justement des zones de tension à gérer. Et je pense qu'il pourra confesser qu'il n'a pas toujours bien fait. Mais ça sera intéressant d'avoir son point de vue aussi en tant que chef d'entreprise chrétien, comment il a vécu ça, comment il a géré son entreprise, et voilà, toutes les facettes de sa vie en tant que chrétien. Donc, peut-être vous vous sentez pas très concerné par cette partie sur la question de diriger une entreprise, mais j'aimerais venir à quelque chose qui me semble être une tendance actuelle en rapport avec le travail, c'est cette recherche de sens dans le travail que nous faisons. Il y a une quête de sens. Plus aujourd'hui, je pense, qu'auparavant. On veut plus travailler simplement pour gagner sa vie. Peut-être que nos grands-parents étaient très contents d'avoir un boulot et je gagne ma vie pour prendre soin de ma famille, etc. Et je suis heureux comme ça. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes mettent l'accent sur « je veux un travail qui fait sens ». Et c'est tant mieux. Je pense à Quentin, par exemple, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais qui a pendant de nombreuses années travaillé dans la grande distribution et qui aujourd'hui commence à travailler dans le domaine auprès d'un public d'handicapés et qui désire devenir éducateur. parce que ça fait sens pour lui. Et c'est super parce qu'il s'épanouit et il découvre quelque chose, pourquoi il est fait, et il y a du sens. En même temps que cette recherche de sens, on entend aussi beaucoup ce message-là de « va au bout de tes rêves », en gros. Tu es une personne unique, réalise-toi. Avec ce qu'on constate dans les jeunes générations, un esprit entrepreneurial qui est plus développé. Peut-être la jeune génération est moins attirée par entrer, faire une carrière dans une grande entreprise, etc. Parce que peut-être ils considèrent que tout ce qu'on lui vend, c'est un peu du rêve, que les différentes valeurs qui sont mises en avant, c'est du pipeau, etc. Et donc, on a plus envie de lancer son propre truc, d'aller au bout de ses rêves. Alors, d'un côté, on peut tout à fait approuver que chacun a un parcours de vie qui est unique, avec des hauts et des bas, et qu'on peut en tirer profit pour quelque chose de meilleur. Il y a quelque temps, je regardais une émission à la télé sur le pouvoir d'achat, et puis il y avait une dame qui était suivie dans le reportage et qui faisait beaucoup d'achats, revente, elle achetait sur le bon coin ou dans des brocantes et puis elle revendait, elle remettait en valeur des objets ou des vêtements qu'elle avait trouvés. Et en fait, elle avait acquis cette expérience et elle le mettait maintenant au service des gens qui voulaient récupérer du pouvoir d'achat et donc elle les coachait. Mais cette expérience, elle l'avait appris dans la douleur en étant maman à élever seule une petite fille et elle avait dû aller chiner dans les brocantes, aller chercher des solutions pour se débrouiller et donner une qualité de vie à sa fille. Là, c'est dans la douleur qu'elle avait appris et elle avait tiré quelque chose de bon. Super. Notre parcours de vie, oui, peut nous apporter des choses uniques. Peut-être c'est un parcours de souffrance qui va nous aider à encourager d'autres, notamment frères et sœurs dans la foi, mais peut-être de manière plus large. Encourager parce qu'on a vécu des souffrances et on a vu Dieu à l'œuvre et on a quelque chose à dire. On a quelque chose à apporter. C'est ce que Paul dit dans l'une de ses lettres. Il parle du Dieu qui réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Donc oui, il y a cette idée de chacun a un parcours de vie qui est unique et avec lequel on peut tirer quelque chose de meilleur. Mais d'un autre côté, je discerne peut-être deux dangers potentiels ici. C'est d'abord une attitude qui est centrée sur moi, moi, moi. Tu es au centre. Réalise-toi. Va au bout de tes rêves. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? En tant que chrétien, on est appelé à chercher ce que Dieu veut pour nos vies. On est appelé à focaliser non nos vies entièrement sur soi, mais sur Dieu et sur les autres. Quand on est dans le moi, 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 je réalise mes rêves, peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, ça va être au détriment de ceux qui m'entourent. Au détriment de ceux qui sont sur ma route. Donc, cette attitude égocentrique est en décalage avec la vision biblique qui nous tourne vers Dieu et en qui on trouve un épanouissement le plus profond. Un deuxième danger potentiel que je vois, c'est d'avoir une attente démesurée par rapport à l'épanouissement que nous voulons dans notre travail. On en attend tellement qu'on court le risque d'être déçu. Une idole, c'est une bonne chose, mais qu'on a absolutisée. Si mon bonheur, avec un grand B, c'est mon travail, si je mise tout là-dedans, que je pense que c'est là que je vais puiser tout l'épanouissement possible, je risque, à court, moyen ou long terme, la déception, la désillusion, que le travail ne nous a pas apporté tout ce qu'on pensait en termes d'épanouissement. Un deuxième risque, c'est l'épuisement. On va tellement se donner corps et âme ici parce que c'est là qu'on doit trouver tout ce qu'on cherche, qu'on va terminer complètement cassé, on va terminer en burn-out, on va terminer en dépression, on va terminer à l'asile parce que on a placé trop d'attentes dessus. Le travail à sa juste place, bien sûr, c'est une question qu'on doit se poser pour nous-mêmes, comme je disais par rapport à cette question sur développer une entreprise, etc. Il y a beaucoup une question d'appel. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à vivre, moi, dans ma situation, au regard de ce que la Bible me donne aussi comme élément de réflexion? C'est là que je vais pouvoir déterminer le travail, la juste place que le travail doit prendre dans ma vie. Mais d'après ce qu'on lit dans Exode 20, le travail ne peut pas prendre la place de Dieu. Dieu qui ne tolère aucun rival. Il n'y a pas d'autre Dieu. Mais j'aimerais vous rendre attentif pour terminer à ce que Dieu dit avant de donner ses 10 commandements, dont le premier qu'on vient d'évoquer, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il commence d'abord par se présenter. Si vous l'avez sous les yeux, là, dans Exode 20, page 85, avant de donner ses 10 commandements et de commencer par dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu », il dit « Qui est en train de parler ?» pour déclarer ça. Il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu t'a libéré d'Égypte. Tu étais esclave. Je t'ai libéré, je t'ai racheté, je suis ton rédempteur, je suis ton libérateur. » Notez bien, dans tout le fil rouge de la Bible, le Dieu de la Bible, c'est pas celui qui attend que son peuple le cherche ou respecte comme il faut toutes ses instructions à la lettre. Il commence par libérer, il commence par donner, il commence par faire grâce. C'est ça le Dieu de la Bible qui est unique. Il vient pour libérer. Le message de l'évangile, c'est un message de libération. Et ce message de l'évangile touche aussi notre travail. Et il nous prévient contre le risque que notre travail soit notre maître et qu'on en soit esclave. En tant qu'enfant de Dieu, spirituellement parlant, Dieu nous a délivrés de l'esclavage du mal et du péché. Lorsque Jésus a livré sa vie à la croix, on a alors été délivrés, sauvés puissamment. Et ce n'est pas pour nous remettre sous un esclavage quelconque, comme dit l'apôtre Paul. Nous avons en Jésus-Christ un bon maître. Le travail est un mauvais maître qui finit par nous maltraiter. Alors que Jésus est ce maître parfait. Et il nous permet de mettre les choses à leur juste place. Le travail à sa juste place, il n'est ni inutile, ni mauvais en soi, ni fin en soi. Le travail est un don de Dieu, qui par sa grâce peut être source de nombreuses satisfactions, mais aussi de nombreuses tensions, comme on a évoqué la dernière fois, parce que le mal est partout dans les sphères de notre vie, de notre monde. Mais le travail n'est pas notre Dieu, n'est pas notre maître. Et si le travail n'est pas mon Dieu, il y aurait quelques applications pratiques, dont notamment deux, mais je ne vais pas avoir le temps de développer dessus, mais ça serait l'objet d'une réflexion ultérieure. D'abord, le sabbat, s'arrêter, savoir s'arrêter. Si on avait continué la liste des 10 commandements, il y a le sabbat dedans. Pense à observer le jour du sabbat et faisant un jour consacré à l'Éternel, verset 8. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat. On a fait un jour qui lui est consacré. Alors bien sûr, le Nouveau Testament éclaire cette notion de sabbat, nous montre que Jésus est venu nous apporter le repos d'une manière plus absolue et qui nous fait entrer dans un repos éternel parce qu'il a accompli. Mais malgré tout, la vérité qui se trouve derrière ce commandement du sabbat reste valable. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? S'arrêter un jour dans la semaine, c'est une manière de faire confiance à Dieu pour subvenir à mes besoins. Je peux m'arrêter un jour, Dieu sera là. Qu'est-ce que c'est dur dans notre société. On voit le nombre de commerces ou d'entreprises qui sont ouvertes 7 jours sur 7. Des fois, ça fait mal au cœur. Moi, le G20 en bas de chez moi, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps ouverts, jour et nuit. Alors, heureusement, ils tournent. C'est pas les mêmes salariés 7 sur 7. Mais malgré tout, on voit bien en filigrane cette difficulté à savoir s'arrêter. Moi aussi, à une certaine époque de ma vie, des fois le dimanche après-midi, je devais m'y remettre pour préparer ma mission du lundi, etc. C'est difficile de s'arrêter. C'est une vraie discipline de réussir à s'arrêter. De pas continuer à mouliner dans sa tête par rapport à son boulot, c'est dur. Mais c'est une manière de faire confiance à Dieu. Je suis libre de m'arrêter de travailler un moment chaque semaine. Peut-être c'est pas le dimanche, peut-être c'est un autre jour, peut-être c'est des moments suivant le travail qu'on a et ses contraintes. Mais un moment pour jouir du repos, pour passer du temps avec ma famille ou mes proches, pour communier avec Dieu et avec l'Église. Je ne suis pas tenu de servir mon travail 7 jours sur 7, parce que Dieu est là. Le sabbat, première implication pratique qu'on peut citer. Le deuxième, c'est le don, parce que j'ai un travail que Dieu m'a donné et que j'en tire des revenus. Je suis libre aussi de donner une part de mes biens pour adorer Dieu, pour servir mon prochain aussi, pour aimer les autres. Et ce faisant, je limite le pouvoir de l'argent sur ma vie. Parce que l'argent, c'est aussi une idole potentielle pour nous. Quel que soit le montant, d'ailleurs, comme on a dit. On peut s'y accrocher, pensant y trouver sécurité. Mais lorsqu'on s'en défait, en fait, on met notre fond en action. Et on limite le pouvoir d'attraction qu'on veut absolument de tenir. Une manière bien concrète de limiter le pouvoir de ce faux dieu. Dans le Nouveau Testament, il est même dénommé hein, Mammon, le dieu de l'argent. Et Jésus dit, vous pouvez pas servir Dieu et Mammon. On peut pas servir deux maîtres, dit Jésus. Je vais m'arrêter là pour cette réflexion sur le travail et sa juste place. Que le Seigneur vraiment nous éclaire dans notre situation présente. Peut-être que vous vous êtes senti concerné plutôt par une facette ou une autre de ce message, du texte biblique, qu'elle puisse vraiment nourrir votre réflexion et conduire vos décisions. Peut-être vous conduire à vous repentir d'une mauvaise place donnée au travail. Peut-être réorienter certains choix de vie, réorienter certaines pratiques. Je nommais la question du sabbat. C'est difficile de savoir s'arrêter. Peut-être c'est quelque chose sur lequel vous allez chercher à travailler. Peut-être sur le don, comme étant une reconnaissance à Dieu, de dire « Je m'attends aussi à ce qu'il pourvoit. » Je vous invite à la prière. Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous éclaire, qui nous permet de trouver les repères dont nous avons besoin. Merci parce que tu es celui qui nous a libérés pour nous donner une vie nouvelle, pour nous donner un bon maître qui prend soin de nous. Et nous voulons, Seigneur, t'honorer dans le champ de notre travail, dans notre activité, si elle n'est pas salariée, Seigneur, mais nous voulons te prier que tu nous donnes de donner la juste place à chaque chose dans nos vies. Aide-nous à débusquer peut-être lorsque quelque chose devient une idole pour nous, et à réorienter nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es bon, tu es miséricordieux, tu nous accompagnes, même quand nous, on n'est pas bon, même quand nous, on n'est pas fidèle. Toi, tu es là, tu prends soin de nous, et tu nous guides, tu nous réorientes dans ta bonté, dans ton amour. Merci pour ce Dieu que tu es. Merci, Seigneur, de bénir chacun de nous dans son domaine professionnel, avec les défis qui sont les nôtres. Merci de pourvoir à ceux qui n'ont pas de travail en ce moment, dans l'Église, Seigneur, et de les bénir, de leur donner de pouvoir trouver par ta grâce un travail où ils pourront, Seigneur, te servir, servir les autres et être heureux, Seigneur. Aide-nous à être reconnaissants, aide-nous à cultiver le contentement quand notre travail n'est pas facile. Aide-nous, Seigneur, à vivre toutes ces choses-là avec ta perspective. Merci, Seigneur. Amen.